Alors effectivement, le rapport ne va pas forcément de soi entre les images du masculin dont on a beaucoup parlé et brillamment parlé aujourd'hui et les écrivaines du 19e siècle mentionnées dans le titre de mon intervention. Le propos de cette communication sera donc de rendre cette relation évidente. Alors, comme le montre cette citation de Fanny Richomme, qui est extraite du Journal des Femmes, le journal qu'elle dirige, que je lis avec vous pour l'enregistrement, qu'il me soit permis de faire remarquer ici l'influence que notre journal a exercée. Avant lui, presque aucun recueil ne recevait d'articles de femmes sous leur nom, hors quelques noms célèbres. Pour être jugées avec impartialité, elles déguisaient leur sexe, et plus d'une a dû à ce travestissement de justes éloges qu'on eût refusé à la vérité. Donc, on voit bien ici que le contexte du XIXe siècle n'est pas favorable à la présence des femmes dans le milieu littéraire, ce qui les oblige à trouver des stratégies d'acceptabilité, des solutions pour entrer en littérature, et l'une d'entre elles sera d'emprunter un pseudonyme masculin. Les écrivaines camouflent donc leur genre en se donnant une image du masculin. Elles se représentent comme des hommes de lettres. Elles se construisent un éthos, au sens rhétorique ici, un éthos d'auteur masculin, et l'étude de cette figure révèle le modèle de l'écrivain intégré par ces femmes et par la société de la monarchie de Juillet. Alors, cette communication se propose d'observer cette pseudandrie, c'est-à-dire l'usage d'un pseudonyme masculin par une femme, selon la terminologie de Pierre Quint de Jean Blou. Donc, parmi les auteurs de la monarchie de Juillet, et ce que ce travestissement a comme conséquence dans la pratique littéraire des femmes qui en usent, notamment avec l'étude de l'hybridation de l'écriture de Delphine de Girardin, lorsqu'elle signe sa chronique dans le journal La Presse, sous un pseudonyme, le vicomte de Launay. Avant cela, je me permets un retour rapide sur la raison principale qui pousse les écrivaines à choisir de publier sous un nom masculin, à savoir leur exclusion du milieu littéraire. Alors effectivement, les femmes qui désirent écrire au XIXe siècle en France sont confrontées à leur exclusion du champ intellectuel. De manière générale, le statut des femmes se dégrade plutôt qu'il ne progresse pendant cette période, et ce malgré les revendications égalitaires des Lumières et des révolutionnaires de 1789. L'infériorité des femmes est largement affirmée par le discours scientifique. Si on prend par exemple celui de Julien-Joseph Viré, qui écrit que les femmes seraient par nature frivoles, versatiles, crédules, dévotes, superstitieuses, évidemment faibles physiquement du fait de leur cerveau, de leur squelette et de leur menstruation, nerveuses et donc incapables de raisonner et encore moins de se concentrer. Les femmes sont alors pensées comme des corps uniquement, des corps dénués de raison et qui doivent être ménagés du fait de cette nature instable. Et ce sera d'autant plus vrai quand les aliénistes Pinel et Esquirol les déclarent plus susceptibles de tomber dans la folie. Alors afin de les protéger de leur propre folie, il faut les éloigner de la lecture et de l'écriture. La destinée procréatrice qu'on leur assigne également les détermine à ne circuler que dans la sphère du privé. Et l'instruction qui leur est donnée, le plus souvent dans les couvents, abonde dans cette attribution domestique. Une morale solide et des leçons de savoir-vivre forment le corps de l'enseignement. On est donc très loin d'une invitation à la pratique littéraire. Il est bien évident que dans ce contexte, la présence de plus en plus massive des femmes dans le milieu littéraire est vivement critiquée. La pratique scripturale paraît en totale contradiction avec la nature féminine ici définie. Il en résulte une vision absolument monstrueuse de l'écrivaine. Alors là, je cite Gachon de Molène qui écrit dans une grande revue, qui est la revue des deux mondes. « Comment appeler une créature dont le sein destiné à allaiter des enfants et à renfermer des joies maternelles demeure stérile et ne bat que pour des sentiments d'orgueil, dont la bouche, faite pour livrer passage à de tendres accents, s'ouvre pour prononcer de hardies et bruyantes paroles ?» dont les yeux, créés pour sourire, pour être doux et ignorants, sont pensifs, sévères. Enfin, dont toutes les facultés et tous les organes ont pris une destination contraire à celle qui leur était assignée, comment appeler une pareille créature ? En vérité, je ne crois pas qu'il y ait dans la langue qui se parle, et même celle qui s'écrit, un nom qui puisse lui convenir. Donc on perçoit vraiment ici le caractère monstrueux de l'écrivaine et son aspect contre nature avec la répétition du substantif créature et également l'interrogative. Il y a une réelle interrogation sur la façon dont on peut nommer ce monstre-là qui n'est pas censé exister. Et dès lors que la femme écrit, elle n'est plus femme, en tout cas plus la femme telle qu'elle est entendue ici par le journaliste, puisque disparaît la fonction procréatrice, de la femme, elle devient stérile, ce qui est un des grands préjugés et clichés qui circulera sur les écrivaines de la monarchie de Juillet et même plus tard et même déjà avant. Mais ce sont aussi des qualités morales qui disparaissent. La modestie disparaît puisque la femme devient orgueilleuse. Sa discrétion et sa pudeur naturelle, puisqu'ici ses paroles deviennent hardies et bruyantes. Et sa naïveté, sa candeur avec ses yeux qui deviennent pensifs et sévères. Donc ce caractère monstrueux, ce véritable rejet, se lie aussi au niveau iconographique. Alors là, je vous projette une caricature, la planche numéro 7 de la série de caricatures qui s'intitule « Les bas bleus » d'Honoré Daumier, qui est diffusée dans le Charivari entre janvier et août 1844. Donc ici, on voit bien que l'écrivaine laisse son enfant se noyer dans son pot ou dans sa baignoire, on ne sait pas trop, tant absorbée qu'elle est par la pratique littéraire. Alors, je ne vous en ai mis qu'une, mais il y en a une autre aussi qui est intéressante, c'est la planche numéro 11, où on voit le mari devenir une nourrice et porter l'enfant comme s'il l'allaitait. Donc en réalité, il n'y a pas que la bas bleue qui devient contre nature, mais aussi son mari. Tout ça pour dire que la femme qui écrit ne remplit pas son rôle social, mais en plus de ça, elle bouleverse l'équilibre familial, cellule sacralisée au XIXe siècle. Alors, la critique littéraire va également recevoir les ouvrages dans ce contexte avec le prisme du genre de l'auteur. Et l'attitude des critiques est tout à fait partiale à leur égard et les journalistes de la presse féminine s'en font l'écho. Ici, je vous projette un extrait du Petit Courrier des Dames, donc d'un article qui s'intitule « Les femmes auteurs ». Alors, ça n'est pas signé, mais on comprend très rapidement que c'est une femme qui écrit. « Qu'une femme tente de se jeter dans la littérature, aussitôt la critique s'arme de ses traits les plus perçants. Dans le monde, elle attaque la personne de l'auteur, dans les journaux, elle dénigre ses talents. Les travaux d'un homme seront jugés pour eux-mêmes, sans que l'œil du lecteur se porte au-delà. » Les ouvrages d'une femme appellent aussitôt une curiosité inquiète sur l'auteur. Est-elle jolie ? On lui donne le conseil de se borner au succès de salon. A-t-elle plus d'esprit que de beauté ? On s'empresse d'en informer le public. En un mot, pour elle, la critique oublie le livre pour l'écrivain. On voit bien ici que ce n'est pas tant l'œuvre en elle-même qui est dénigrée, mais bien son auteur. Et ce qui est toujours remis en question, c'est la pratique littéraire des femmes. Le regard se portant sur la personne de l'auteur, la critique s'éloigne d'un raisonnement esthétique, mais en revanche établit un véritable jugement de valeur. Et quand cette activité scripturale n'est pas complètement remise en question ou rejetée, elle est limitée, elle est cloisonnée à des genres littéraires et à des styles bien précis. Ainsi, de cet extrait d'un article recevant Indiana de George Sand, on peut définir ce qu'est une écriture féminine acceptable et acceptée. En y voyant un tableau si vrai et si vivant d'une destinée féminine, plusieurs se sont écriés qu'une femme seule et une femme faisant retour sur elle-même, racontant ses émotions et son passé, avaient pu l'écrire. Mais d'autre part, en voyant cette sève de poussée forte et vigoureuse, cette allure nerveuse du style venant dès son début placer l'auteur à capacité des maîtres de l'art, on a soutenu qu'il y avait là la trace incontestable d'un talent viril et d'un talent peut-être déjà célèbre, se déguisant et cachant son âge sous un pseudonyme. Alors, ici, on peut définir ce qu'est l'écriture féminine en regardant finalement le retour sur elle-même, l'émotion, le passé. Dès qu'on va être dans la sphère de l'intime, dès qu'on va être dans l'écriture personnelle, il s'agira d'une écriture féminine. Ce qui fait que les genres littéraires qu'on appréciera chez les femmes seront la poésie lyrique, le roman sentimental ou alors l'épistolaire. En revanche, de l'autre côté, du côté du masculin, je pense que je n'ai pas besoin de commenter l'image de la sève de poussée forte et vigoureuse. En revanche, ce sur quoi j'aimerais m'arrêter ici, c'est la maîtrise de l'art littéraire. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de maîtriser l'art littéraire, de ne pas être approximatif dans cette maîtrise, à ce moment-là, on est dans la sphère du masculin. On comprend dès lors que de nombreuses femmes désireuses d'entrer en littérature tentent de dissimuler leur identité féminine sous un voile masculin, puisque la littérature considérée, la littérature reconnue, c'est une affaire d'hommes. Cela étant, ce qu'il faut dire tout de même sur le pseudonyme, c'est que l'usage du pseudonyme est très fréquent au XIXe siècle, et pas seulement pour les femmes. Il l'était déjà au XVIIIe siècle, mais plutôt pour des raisons d'ordre politique. Au XIXe siècle, il s'agit plutôt d'un souci de discrétion, ou alors, et là je cite Pierre Larousse et son dictionnaire universel du XIXe siècle, d'avoir les qualités d'élégance et de sonorité nécessaires lorsqu'on vise à devenir célèbre. Puisque pour entrer en littérature, il faut se faire un nom et transformer un nom peut-être banal et quelconque en un nom qui affiche au lecteur le métier et l'œuvre. La liste des auteurs qui usent d'un pseudonyme est importante au XIXe siècle. Vous voyez ici les plus célèbres, donc Stendhal, Gérard de Nerval, Aloysius Bertrand, je passe. Pour Stendhal, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il a toujours eu un goût vraiment profond pour le divertissement et une créativité débordante dans ce domaine, puisque si on dénombre dans ses écrits intimes sa correspondance ou dans les articles qu'il écrit pour la presse, on peut compter jusqu'à 200 signatures. Pour Gérard de Nerval, qui était initialement, en tout cas civilement, Gérard Labruni, on voit bien que c'est autre chose, puisqu'il se fabrique une sorte de raison sociale et professionnelle noble. En tant que journaliste, il sera plutôt dans l'anonymat ou dans la polynémie. En tout cas, pour les deux, les études critiques s'accordent à dire qu'il y a aussi un être « j'ai du père » dans ce choix de pseudonyme. Ce qui m'amène à penser ici que le choix d'entrer en littérature avec un pseudonyme n'interroge pas uniquement les convenances sociales ou les habitudes de la pratique, mais a questionné aussi un rapport à soi, à son identité et à sa famille. Pour les femmes, la problématique est un peu différente dans le sens où il y a une vraie instabilité patronymique pour les femmes qui s'inscrit dans leur rapport au nom, puisqu'elles passeront d'un nom de jeune fille à un nom d'épouse et possiblement de nouveau à un nom de jeune fille si jamais elles divorcent. Donc le choix d'un pseudonyme peut être la garantie d'un nom à soi et qu'on ne perd pas. Alors il y a différentes possibilités et qui ne disent pas tout à fait les mêmes choses. Alors j'ai fait un rapide schéma, mais qui permet de résumer ça. Alors, cela dit, il n'est pas complet. Il faudrait rajouter le critère social, le choix d'un nom simple ou non à particules, pour avoir une vue d'ensemble et également le prénom. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le choix d'un pseudonyme féminin revient à affirmer une identité féminine. Soit par rejet de la domination masculine du champ, c'est le cas par exemple pour les auteurs féministes ou la presse féministe, soit par reproduction de la répartition genrée des genres littéraires, puisqu'une femme voulant écrire un roman sentimental n'a pas besoin de prendre un pseudonyme masculin, au contraire, elle aura plutôt intérêt à rester sous une couverture de féminité, puisque c'est comme ça qu'elle sera mieux accueillie. C'est d'autant plus vrai pour les livres édifiants ou les contes moraux, où là il faudra même rajouter une particule, puisque ce sont les femmes aristocrates qui vont notamment écrire les manuels de savoir-vivre que les bourgeoises vont s'arracher. Alors, ce qui m'intéresse plus ici, c'est évidemment le choix d'un pseudonyme masculin, puisque si l'on considère, comme Sartre dans L'idiot de la famille, que tout individu est un micro-organisme irréductible qui ne peut s'évader de la conjoncture historique mais la subit et la totalise à sa manière, alors la pseudandrie des femmes de lettres de la monarchie de Juillet révèle à quel point les écrivaines intègrent la domination masculine du champ littéraire et à quel point elles intériorisent cette domination. Qu'elle rejette un nom de jeune fille ou un nom d'épouse revient à rejeter une histoire personnelle, un patronyme familial ou un mari, c'est pourquoi j'ai ici parlé de divorce littéraire. Le premier motif avancé lorsqu'une femme choisit un pseudonyme notamment masculin, c'est celui du refus de la famille, de la belle famille notamment, de voir son patronyme associé à une entreprise littéraire. C'est le cas pour George Sand, qui affirme dans « Histoire de ma vie » que le choix de son pseudonyme est initialement voulu par sa belle famille, qui refuse donc cette publicité, la publicité de son nom. Puis elle avance l'aspect de l'arrangement éditorial, puisque au départ, elle écrit des ouvrages avec Jules Sandeau, et qui paraissent sous le nom de J. Sand. Et lorsqu'elle écrit seule, De La Touche, qui est directeur du Figaro à l'époque, lui conseille de signer Georges Sand. Alors tout cela est tout à fait vrai, mais le hasard ou l'anecdote n'enlève rien à la signification de cette nouvelle identité qu'elle se crée et dont elle voudra que sa descendance hérite, puisque son petit-fils portera Sand en deuxième prénom afin qu'il ait le droit légal de le porter, Sand devient alors un véritable matronyme, pour reprendre l'expression de Martin Reed. On perçoit donc ici l'importance de ce nom choisi et l'annulation de la distance mise entre un auteur et l'éthos et sa personne, distance qui est traditionnellement avancée comme motif d'un choix de pseudonyme. Dans Sand, par exemple, on peut lire sans D, la lettre D, qui est l'initiale de Dupin, qui est son nom de jeune fille, mais aussi du devant, son nom d'épouse, ce qui peut éventuellement être interprété comme le refus de l'ordre patronymique. On peut aussi dire qu'elle enlève l'eau de Sandeau, qui était donc la personne avec qui elle écrivait ses premiers ouvrages, et l'eau étant un symbole morbide que l'on retrouve fréquemment dans son œuvre. Sand, c'est aussi le nom de l'assassin de Kotzebue, qui est un dramaturge. Donc se faire appeler publiquement comme un assassin, ça peut aussi montrer un certain signe de rébellion. Et Sand, et ça George Sand ne pouvait pas l'ignorer anglophile qu'elle était, c'est sable en anglais, le symbole de l'éphémère, du multiple et du léger. Alors sans rentrer plus dans l'analyse psychologisante, il n'en reste pas moins que ce pseudonyme fait sens avec la volonté affirmée de George Sand de se forger une identité propre en rupture avec son histoire familiale. Alors, j'aborde rapidement la question du prénom. Alors là, pour George Sand, on sait que c'est Delatouche qui lui souffle George pour faire Berrichon. En tout cas, le prénom est une signature qui sera fréquente dans la presse féministe. Certaines féministes refusent même de signer d'un patronyme puisque ça ne leur appartient pas. Il y a aussi de nombreuses femmes qui partent de leur véritable prénom pour se construire leur pseudonyme. C'est le cas de Marie-Amélie Chartoul qui signe Marc de Montifo. Et puis en sortant un peu de ma période d'études, Marguerite Duras, par exemple, se forge un pseudonyme, mais garde son prénom. Et là, je la cite, elle dit que le prénom, c'est très moi. Je ne sais pas pourquoi, on s'imagine mal avec un autre prénom. Peut-être parce qu'on l'a plus souvent entendu lorsqu'on était enfant. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui choisissent de conserver leur nom social, hein, qui ne choisissent pas de pseudonyme. Alors, c'est le cas de Marceline Desbordes-Valmore, de Flora Tristan ou encore d'Hortense Allard. Mais ce n'est pas le cas en presse généraliste, ou du moins, il n'existe pas à ma connaissance de femmes qui signent des articles significatifs, j'entends ici, hein, qui signent de leur nom féminin. Les seules qui parviennent à écrire en presse généraliste des articles politiques ou de critiques littéraires le font sous des pseudonymes masculins. C'est le cas de George Sand, mais aussi de Marie Dagout qui signe Daniel Stern. Et c'est également le cas de Delphine de Gérardin, sur laquelle je vais m'arrêter en dernière partie. Donc Delphine de Gérardin, c'est une femme de lettres très active et incontournable même de la monarchie de Juillet. Elle tient salon et s'essaie avec plus ou moins de succès à différents genres littéraires, la poésie, le théâtre et surtout ce qui m'intéresse aujourd'hui, la chronique de presse. Elle est la fille de Sophie Gay, auteur extrêmement prolifique de romans et qui la pousse d'ailleurs à écrire et surtout à devenir une auteure publique mais sérieuse. Son conseil légendaire est « Sois femme par la robe et homme par la grammaire ». On pourrait gloser là-dessus pendant un moment. Elle écrit dans sa jeunesse de la poésie, qu'elle signe Delphine Gay, qui est son nom de jeune fille, et surtout de la poésie de circonstance, mais qui lui donne tout de même un certain succès. Lamartine, Victor Hugo, Théophile Gautier et Balzac même apprécient la jeune fille et femme plus tard, et c'est vers. Une nuance cependant, elle est plutôt perçue comme une muse que comme une poétesse. Elle se marie avec Émile de Girardin, qui est un patron de presse ambitieux et qui crée en 1836 La Presse, le journal La Presse, en réduisant les prix de l'abonnement de moitié. L'autre moitié sera compensée par l'insertion d'encarts publicitaires. Elle signe dès lors Delphine de Girardin ou Delphine Gay de Girardin, ses œuvres littéraires. Son époux, lui demande de tenir un feuilleton hebdomadaire qui s'intitule Le Courrier de Paris et qu'elle signera Le Vicomte de Launay. Alors sur ce choix de pseudonyme, aucune explication n'apparaît vraiment dans sa correspondance. On peut, cela dit, imaginer que signer du nom du rédacteur en chef décrédibiliserait son indépendance de journaliste. Il faut aussi penser que le lectorat et la rédaction du journal sont plutôt masculins. Il faut encore envisager la posture voulue par la journaliste ici, celle d'un dandy, on retrouve le dandy qui a pour arme la parole de Briali tout à l'heure, celle d'un dandy qui fait la chronique de la vie mondaine parisienne. Alors, vous avez ici les premières phrases de la chronique qui durera 12 ans tout de même, entre le 28 septembre 1836 et puis en 48, et qui contiennent vraiment toute la signature du fameux vicomte de Launay. « Il n'est rien arrivé de bien extraordinaire cette semaine. une révolution en Portugal, une apparition de république en Espagne, une nomination de ministre à Paris, une baisse considérable à la bourse, un ballet nouveau à l'opéra et deux capotes de satin blanc aux Tuileries. La révolution de Portugal était prévue, la quasi-république était depuis longtemps prédite, le ministère d'avance était jugé, la baisse était exploitée, le ballet nouveau était affiché depuis 3 semaines. Il n'y a donc de vraiment remarquable que les capotes de satin blanc, parce qu'elles sont prématurées. Le temps ne méritait pas cette injure. Alors, pour faire un rapide commentaire de cette citation, donc au Portugal, en fait, c'est le règne de Maria II qui a été un règne de lutte et de révolution politique. Et là, une constitution est publiée suite à une manifestation où la garde municipale a fraternisé avec le peuple. Lorsqu'on parle de l'Espagne, en fait, on parle de Christine qui est régente d'Espagne et qui doit céder devant une émeute littéraire. Quant au ministère, c'est le ministère Moléguisé qui remplace le ministère Thiers. Alors, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est l'hybridation, voire l'androgynie de l'écriture. Puisque du côté masculin, on a évidemment la signature du vicomte de Launay, la ligne éditoriale du journal, qui est vraiment un journal d'actualité politique et économique, et l'analyse ici, qui implique une culture politique et économique pointue, quand elle parle de la presque république ou encore d'une baisse exploitée, ce qui montre qu'elle maîtrise le principe de la bourse et de cette culture politique. Elle montrera aussi dans d'autres articles, des protocoles de différenciation sociale ou encore la représentation spatiale de la société moderne. Tout ça sont vraiment des domaines strictement réservés aux journalistes masculins. Mais en même temps, dans ce passage, on a un vrai côté dit féminin. D'abord, c'est le lieu du journal, puisqu'elle écrit dans le feuilleton, donc le feuilleton étant ce qu'il y a dans le bas du journal. Et si une femme peut écrire dans la presse, à cette époque-là, c'est uniquement dans le feuilleton, qui est réservé aux fictions ou aux chroniques mondaines. Le fait de calquer sa chronique sur de l'épistolaire, puisqu'on parle de courrier de Paris, l'épistolaire étant le genre littéraire vraiment accordé aux femmes, elle fera en fait de son courrier de Paris le journal intime du vicomte de Launay, et puis encore la conversation, puisque dans certains autres articles, je ne l'ai pas mis ici, mais elle intègre directement des morceaux de dialogue. Donc tout ça, plus évidemment ici le commentaire de mode, avec vraiment ce rejet du politique, comme si ça n'était pas important. Ce n'est pas ça qui est important dans l'actualité aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'apparition de ces capotes de satin blanc. Et donc, le fait de rejeter le politique tout en le citant tout de même et de se concentrer sur la mode fait que il y a un vrai côté féminin dans sa chronique. Et l'innovation de Delphine de Girardin dans cette chronique, c'est vraiment cette pratique de l'ironie et du double sens. Elle invente vraiment un nouveau genre journalistique, une poétique adaptée aux spécificités du journal quotidien, comme le dira Marie-Ève Terenti dans La littérature du quotidien. C'est en fait en définition ici l'origine des billets d'humeur qu'on voit beaucoup dans nos journaux. En tout cas, ce qu'on peut dire sur cette écriture, c'est qu'il y a un vrai jeu ici avec les codes du masculin et du féminin, puisqu'elle prend la posture d'un homme, mais le discours d'une femme. La mode n'est ici qu'un bélier, qu'un prétexte pour s'ouvrir les portes de l'analyse politique, de la critique raisonnée, qui sont par ailleurs complètement interdites aux femmes. Elle exploite donc les modèles masculins du journalisme, mais les transforme et transcende ainsi les frontières conventionnelles entre journalisme féminin et masculin. Pour conclure rapidement, le contexte de domination du champ littéraire par les hommes a obligé certaines femmes désireuses de s'y inscrire à se donner une image du masculin. L'artiste reconnu, adoubé dans sa pratique littéraire, on l'a vu, est nécessairement un homme. Et cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'intégrer des rédactions de presse généraliste. C'est assez différent en presse féminine, pour le coup. Le choix des femmes du pseudonyme masculin ne révèle pourtant pas que cela. En se créant un éthos d'écrivain, elles peuvent également se jouer de cette injonction à la masculinité artistique et composer avec les codes du féminin, et du masculin en littérature. Il revient alors aux chercheuses et aux chercheurs en littérature de ne pas se borner à ce que signifie socialement ce travestissement, mais à relever les stratégies discursives qu'il conditionne et les innovations esthétiques qu'il permet. Je vous remercie.